Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Dans ce 14e épisode, nous finalisons notre entretien sur les aspects théoriques et pratiques des PPP. Dans cette dernière partie, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quel exemple de PPP réussi et de cas d'échec des PPP peut-on citer en Afrique? Quelles bonnes pratiques et mauvaises pratiques peut-on considérer quand il s'agit du développement de projets de PPP en Afrique? Comment la pandémie du COVID a pu impacter les projets de PPP en cours et comment pourrait-elle impacter leur développement dans le futur? Comment les enjeux climatiques sont-ils intégrés dans le développement des projets PPP aujourd'hui? Ces questions sont répondues par notre invité Elan Kujiakbar, directeur de l'unité PPP au sein de CPCS. Elan est un expert PPP et financier accompli en matière d'infrastructure. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans la création, la structuration et la direction de transactions complexes en matière d'infrastructure tout au long du cycle de vie des projets. Expert international ayant travaillé dans les différents continents, Elan a dirigé l'équipe de conseil en PPP de la SFI au sein du groupe de la Banque mondiale couvrant l'Afrique occidentale et centrale. Il possède ainsi une solide expérience en conseil aux clients publics et privés pour le développement, l'acquisition et le financement de projets d'infrastructures dans le secteur de l'électricité, des transports, de la santé et de l'eau.
Juste parce qu'effectivement, tu as parlé un peu de quelques éléments qui peuvent pousser à un projet à ne pas être viable ou être PPPable. Et peut-être il y a des projets même qui ont été réalisés et après, durant le coût de la vie, on se rend compte peut-être que ce projet-là n'est peut-être pas un bon projet ou en tout cas a rencontré des problèmes. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de projets PPP qui ont réussi, qu'on peut considérer comme exemple, et de, peut-être un cas d'échec, idéalement, éventuellement en Afrique?
Ouais. Alors, le projet que... Bon, enfin, je suis c'est du franglais, je suis un vrai fan de ce projet, c'est la concession de distribution d'électricité du Mémé, à Ouganda. On a même organisé une visite quand je travaillais chez l'IFC, et on a même amené un client avec nous, donc pour visiter Oumémé, voir quels sont les éléments de réussite et aussi les éléments d'échec. Mais en gros, c'est un exemple de réussite. Et dans ce projet de PPP, un opérateur privé a été sélectionné pour un contrat de 20 ans en 2005. Et depuis le début des opérations, le gouvernement a réussi à attirer un opérateur privé crédible et un financement public privé. Les partenaires de développement ont soutenu d'importantes réformes sectorielles. Alors ça aussi, c'était assez important. S'assurer qu'il y avait un régulateur en place qui était indépendant, qui avait quand même une capacité de mettre en œuvre la réglementation qui a été mise en place par les lois afférentes. Umémé a quand même réussi à connecter près de 100 000 nouveaux clients à l'électricité et a réduit de manière significative les pertes de distribution. Et pour moi, c'est vraiment l'élément qui est vraiment le bijou dans ce projet, c'est que la concession a encouragé un actionnariat national significatif dans la société, donc le SPV qui a été créé, et les mêmes cotés en bourse. Et je pense que quand je vois les débats pour et contre le PPP, souvent le débat compte et c'est le privé, souvent de l'étranger, qui vient, qui prend les bijoux du pays, les actifs du pays qui sont stratégiques. Ils ont quand même un gain financier fabuleux et donc ça va à l'encontre de l'intérêt national. Mais pour moi, MME, et on a vu cet exemple parce que donc, le privé, c'était CDC de Royaume-Uni et aussi un opérateur qui avait quand même un part important dans l'actionnariat du SPV. Mais sur le temps, ils ont réduit leur part dans le SPV et maintenant, voilà, l'actionnaire le plus important sont les actionnaires nationaux, y compris des individus qui sont capables donc d'acheter des actions auprès de la bourse Uganda. Alors, ce soutien, à mon avis, le succès a été fondé sur un soutien solide des partenaires développement, dans le début du processus pour les réformes sectorielles. Les groupes d'investisseurs, donc, comme je disais, qui comprenaient CDC du Royaume-Uni, s'étaient engagés dans le projet et les compétences techniques étaient quand même crédibles. Alors, ils ont bien choisi leurs partenaires. Souvent, dans des projets, on n'a pas vraiment les critères en place pour choisir le partenaire privé qui a vraiment les compétences requises. Et face à l'opposition, il y avait d'éminents champions du projet, y compris l'unité de PPP, pour assurer sa réussite. Maintenant, en termes d'échecs, moi, je dirais que le chemin de fer Dakar-Bamako, qui a été concédé à Transrail en 2003 pour une période de 25 ans, est malheureusement un cas d'échec. Et donc, il faut aussi considérer que cet échec s'est traduit par de mettre fin à la concession en 2015 par le Sénégal et le Mali. Alors, quelles sont les principales raisons de l'échec? Bon, il y a quand même une longue histoire derrière ce projet. Bon, moi, j'essaie de citer quelques exemples. C'est assez complexe, mais bon, j'essaie donc de simplifier les raisons pour cet échec. Un, le concessionnaire est responsable à la fois de la gestion de l'infrastructure, donc l'entretien, le développement et l'exploitation des trains, mais les recettes ont été insuffisantes pour couvrir ces coûts. Alors, il y avait quand même un besoin d'investissement avec l'appui des bailleurs de fonds, mais aussi, ça aussi, c'était un processus qui était assez long. Donc, en conséquence, les infrastructures ont souffert en termes de manquement d'investissement. Alors, cette situation a quand même a été aggravée par déjà le mauvais état des voies et du matériel roulant, parce qu'il y avait des décennies de sous-investissement au Sénégal et au Mali. Et aussi, il faut constater que le gouvernement investit massivement dans les deux corridors routiers entre Dakar et Bamako. Alors donc, ça a exacerbé la pression concurrentielle entre le système ferroviaire Dakar-Bamako et la route. Il faut dire également que dans les systèmes de taxes, alors il y avait quand même un taxe qui est perçu quand vous achetez le pétrole. Et même les trains doivent acheter ce diesel, pardon. Là-dedans, il y a quand même un taxe qui, en fait, paye le fonds routier. Alors, même le chemin de fer payait pour le développement du secteur routier. Alors, c'était quand même un peu aberrant dans la structure des incitations entre l'utilisation de la voie ferrée et les routes. Les deux gouvernements aussi, il faut constater qu'ils n'ont pas respecté toutes les obligations dans le contrat. Donc, une obligation, c'était déflation de personnel et donc couvrir le plan social. Et là, il y avait quand même eu des problèmes pour la mise en œuvre du plan social. Et le paiement des obligations de services publics pour le transport des passagers, qui était très important pour le Mali. Mais bon, effectivement, le fret, on sait très bien, est quand même rentable, mais non pas le transport de passagers. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus important, les deux gouvernements, en particulier le Mali, étaient parfois ambivalents, moi j'irais voir hostiles, à l'égard du projet de PPP. Alors en fin de compte, ils voulaient simplement d'avoir accès au financement très avantageux de la Banque mondiale, mais quand même il y avait cette méfiance envers le secteur privé, et donc de, entre guillemets, privatiser le chemin de fer.
Merci beaucoup, c'est très clair, c'est très clair. Bon, là, j'ai envie de relancer un peu en demandant, si tu avais des suggestions sur vraiment les bonnes pratiques, ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour le développement de projets PPP en Afrique, qu'est-ce que tu proposerais sur les do's and don'ts?
Les do's and don'ts. Alors, en termes de do's, ce qu'on doit faire, bon, j'essaie de simplifier parce que là aussi, ça va être un débat juste sur les do's and don'ts. Donc, moi, j'essaie de simplifier. Je pense qu'en premier lieu, il faut sélectionner les projets les plus prometteurs afin de créer une dynamique positive et un retour d'informations favorable du marché. C'est essentiel parce que les signaux qu'on lance vers le marché, soit on a quand même un pipeline de projets qui sont quand même bancables ou pas bancables. Bon, ces signaux sont quand même assez importants vis-à-vis le marché. Parce que vous faites concurrence avec le monde entier en termes de projets. Alors, il faut s'assurer que vos projets sont les plus attrayants. Deuxièmement, il faut vous assurer de disposer d'une équipe dédiée, expérimentée, capable de développer, de réaliser des projets de PPP qui sont bien structurés. On sait très bien que souvent, il manque de capacité. Et cette manque de capacité veut dire que le filtrage, l'évaluation des projets de PPP ne sont peut-être pas aussi pointus, aussi développés, aussi bien fondés en termes de sélection de projets. Et ça, c'est quand même assez important. Mais même la structuration du projet. Quelle est donc l'allocation des risques? De quelle manière est-ce qu'on doit donc impliquer le privé? Comment est-ce qu'on va faire, par exemple, un sondage du marché donc pour tester cette structure de projet? Tous ces éléments sont quand même assez importants. Et souvent, bon, il faut le dire, les gouvernements ne le font pas. Ils lancent des projets qui sont, encore une fois, je vais déployer du franglais, leur pet projects, donc leur pour eux qui sont les projets phares. Mais souvent, c'est pas vraiment des projets qui sont soit intéressants pour le secteur privé ou bien ils vont bider sur ce projet, mais à un coût qui est très cher parce que les risques sont perçus comme très élevés. Et dernièrement, au troisième point, assurer que la volonté et l'engagement politique sont présents et affichés publiquement pour chaque projet. Donc, si c'est un projet chemin de fer, s'assurer que le ministre de Transport est là, devant le public, devant le marché, pour appuyer le projet jusqu'à la fin. Sinon, s'il y a des retards, ça rend le projet encore plus cher, non seulement pour le gouvernement, mais également pour les bidaires dans ce projet. Dans cette transaction. Alors, je propose trois choses à ne pas faire. Ne placez pas les projets ayant une faible potentiel de revenus et des besoins élevés en subventions en tête de votre pipeline de projets PPP. Effectivement, il faut lancer des bijoux. Souvent, on veut garder les bijoux. je ne sais pas pourquoi. Peut-être, soit ce ne serait pas des projets PPP parce que c'est des bijoux, donc on ne peut pas le donner au privé. Donc, ça peut-être, souvent, c'est un point. Et donc, on met sur les marchés les projets qui sont peut-être les plus difficiles à mettre en œuvre ou ceux qui sont pas très rentables en pensant que, je sais pas, il y aura peut-être un potion magique qui va rendre ces projets plus attrayants. Mais effectivement, ils vont pas susciter l'intérêt de la part du marché. Ça, c'est la réalité des choses. Ne partez pas du principe que les contrats négociés directement sont plus rapides qu'une procédure de passation de marché entièrement concurrentielle. C'est une idée fausse. Et souvent, on l'entend, non, c'est plus simple, on a déjà un privé devant nous, on va aller plus vite. Non, pas du tout. En fait, on voit que ça prend des fois même plus de temps, parce que vous n'avez pas des règles du jeu qui sont claires. Tandis qu'un PPP bien structuré, avec un processus concurrentiel, franchement, ça peut prendre moins de temps, parce que c'est un processus qui est beaucoup plus clair. Dernière chose, ne pas passer des marchés de PPP, en particulier ceux qui sont les plus complexes, sans l'aide de conseillers expérimentés. Bon, est-ce que ça va rendre le projet un peu plus cher? Oui, mais de toute façon, les projets de PPP, il faut compter au moins 1 à 3% de la valeur du projet pour payer les coûts de transaction. Donc, les avocats, les cabinets conseils d'ingénierie, même des fois un cabinet en relation publique. En fait, il faut quand même cet investissement pour s'assurer que vous aurez une transaction qui va réussir.
C'est très clair. Merci encore, Elan. Je pense que effectivement, ces conseils sont les bienvenus et j'espère que nos auditeurs publics qui nous écoutent prendront bien ça en compte dans le cadre du développement de la pipeline de projet. Juste avant quand même qu'on finisse, il y a un sujet que j'aimerais aborder. Le Covid quand même a un peu chamboulé le monde, hein, plus ou moins mis à terre certaines économies, et forcément en arrêtant des fois les économies, ça a de l'impact sur des projets PPP qui étaient en cours, et même voir des projets PPP qu'on devrait développer. Et tu peux juste aborder un peu comment effectivement cette pandémie-là a pu impacter les contrats PPP et éventuellement peut avoir aussi de l'impact sur leur développement?
C'est une très bonne question. Bon, on a tous vécu la pandémie, hein, que ce soit s'il y avait une famille ou pas, ou surtout au niveau du travail. Donc, c'était vraiment c'était incroyable, en termes d'impact. Et bien sûr que moi, je dirais que tous les projets PPP ont été impactés d'une certaine manière. L'impact le plus immédiat sur les PPP, a été la baisse de revenus due à des facteurs tels que la diminution des nombres de passagers, par exemple le cas d'un tramway, mais aussi la perte du personnel en raison de maladies ou les restrictions de quarantaine, ou le défi de respecter l'obligation de paiement public alors que le gouvernement était occupé à essayer de soutenir une économie nationale en difficulté. Alors tous ces projets quand même ont vécu ces éléments d'une certaine manière. Moi, je dirais qu'en termes de développement de nouveaux projets de PPP, il faut garder l'esprit que le financement est plus cher aujourd'hui. Bon, pas juste à cause de Covid, bien sûr, mais en raison de l'inflation. Et on peut dire quand même qu'il y a un lien avec le Covid, parce que bon, on n'a pas fait grand-chose pendant 2 ans, et là, d'un coup, on est prêt à acheter des maisons, voyager, etc. Bon, il y a aussi des questions de chaîne logistique et le fait qu'il y avait quand même un retard pour remettre en marche ces chaînes logistiques. Mais bon, l'inflation, quand même, il y a un impact. Et donc, il faut en tenir compte du fait que le financement, maintenant, est plus cher. Et aussi que des mesures doivent être intégrées dans le contrat, telles que des dispositions d'allègement des paiements pour faire face à des événements futurs similaires. Parce que, selon les experts, it's going to happen again. Donc, il y aura quand même d'autres cas similaires. Que ce soit Covid, ça serait autre chose. On va l'appeler autrement. Mais bon, il y a quand même toujours cette risque et on dit que ça va être encore plus important dans le futur. Je prends l'exemple au Royaume-Uni. En fait, une directive spécifique a été élaborée pour soutenir les projets de PPP qui ont été affectés par le Covid. Il n'y a pas tous les pays que l'on fait, mais je pense que ça aussi, il faut le prévoir dans les cas de PPP. Qu'on peut quand même activer soit cette directive est déjà en place, et c'est pas juste Covid, il y aura peut-être d'autres cas, si on peut le dire, dans le sens large de force majeure ou des événements qu'on n'avait pas prévus. Mais quand même, on peut prévoir l'imprévu. Et donc, c'est important d'être capable de mettre en place soit une directive qui existe déjà ou de mettre en place, qui va donc alléger un peu les obligations. Et surtout, c'est quand il y a des paiements, que ce soit le privé vers le public ou vice-versa, pour qu'on puisse quand même aller à travers cette période difficile et non pas aller directement à annuler le contrat. C'est vraiment prématuré.
Merci Alan. Et quand on parlait tout à l'heure, on semblait conjuguer le Covid au passé et je me rends compte effectivement qu'il y a encore des pays comme la Chine hein, qui appliquent un peu la politique du zéro cas et qui sont toujours encore dans des difficultés par rapport à cette pandémie-là. Et juste avant de finir notre entretien, j'aimerais quand même aborder un élément, les enjeux climatiques qui aujourd'hui prennent une grande place dans le développement des infrastructures. Aujourd'hui, comment vous voyez un peu l'intégration de ces enjeux-là dans le cadre des projets PPP?
Alors, climat et les PPP, je pense que les deux vont main dans la main, car les infrastructures sont les premières à ressentir des effets du changement climatique et à devoir s'y adapter. Alors, lors de l'examen de la viabilité et de la faisabilité des projets de PPP, il convient de déployer de nouveaux outils permettant d'évaluer les risques climatiques et les mesures d'atténuation. Alors, on voit maintenant, surtout les projets financés par les bailleurs de fonds, ils ont mis en place des outils pour évaluer les impacts du climat et s'assurer. Et j'avoue que c'est assez nouveau. Alors, il y a quand même une période de rattrapage qu'il faut faire au niveau des outils, même dans les cadres qui sont déjà en place, même dans les pays les plus avancés en tant que PPP, comme Nigeria, Côte d'Ivoire, mais les adapter pour intégrer des éléments d'analyse climatique dans leur template pour les études de préfaisabilité et faisabilité. Donc, il y a quand même un rattrapage qui doit être fait. Également, les contrats de PPP devront tenir compte des impacts et des risques climatiques et prévoir une répartition judicieuse des risques. Alors, la conception des infrastructures, selon que ce soit un projet brownfield, donc un infra existant, et on va donc améliorer ou réhabiliter, ou greenfield, donc complètement nouveau, comme un terminal à conteneurs, devrait tenir compte des effets du climat. Alors, il s'agit notamment de trouver des solutions permettant de réduire l'empreinte carbone du projet. CPC travaille sur un certain nombre de mandats, axés sur le développement des fonds de financement verts, et sur le développement d'un pipeline de projets verts. Alors, l'avenir est donc proche. En fait, it's already here. Donc, ça commence.
Mais c'est très bien et sûr, c'est sûr, certain que aujourd'hui, ça interpelle tout le monde et ça interpelle tous les secteurs. Donc, tout le monde aujourd'hui, en tout cas, dans ces initiatives pour le développement économique et social, doit intégrer ces changements climatiques. Voilà, comme vous le dites, c'est déjà là, c'est aujourd'hui. Mais écoute, j'ai bien aimé cette discussion et j'ai pas vu l'heure passer. C'est toujours passionnant et c'est toujours agréable de discuter de ces sujets-là. Mais bon, on va essayer d'en rester là pour aujourd'hui et je vais peut-être te demander si tu avais un mot de la fin avant de clôturer.
Il y a trop de choses à dire, Mamadou. En fait, we can keep going. On peut en parler pendant longtemps. Alors là, je peux dire que c'est quoi le mot de fin pour les PPP? En fait, il n'y a pas de mot de fin, en fait. C'est impossible. Mais moi, je dirais, s'il y avait un mot de fin, et avec ceux qui participent à ce podcast, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Moi, je dirais que lorsque vous développez un pipeline de projets de PPP et que vous avez décidé de la structure des projets et de ceux à lancer en premier, moi, je dirais, mettez-vous à la place d'un simulationnaire potentiel, un privé. Quand vous les mettez à leur place, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire une offre sur des projets qui sont bien développés, qui offrent une répartition équilibrée des risques, qui bénéficient d'un soutien politique total et qui sont basés sur des procédures de passation de marché qui sont transparentes et équitables. C'est tout. Alors pour moi, ça, c'est vraiment des principes de base. S'il n'est pas capable de remplir tous ces éléments qui, selon moi, sont des éléments de base, moi, je dirais, don't go there. Pour moi, c'est essentiel. Ces soumissionnaires comparent tous les projets sur le marché mondial et ils vont choisir celui qui répond le mieux à leur stratégie et, à mon avis, qui va répondre à tous les critères que j'ai décrits ici, ci-dessus. Alors moi, je dirais, dernière chose, lorsque vous êtes en concurrence avec le monde entier, assurez-vous de mettre en avant votre meilleur atout pour vos projets de PPP. Merci.
Ouais, c'est très clair et je pense que c'est très bien dit. Merci encore, Elan. Ce fut un plaisir et j'espère qu'on aura encore l'occasion de pousser cette discussion autour des PPP en Afrique.
Merci, Maoudou, c'était vraiment un plaisir.
Ceci est notre dernier épisode pour l'année 2022. Un grand merci à nos invités, à nos auditrices et à nos auditeurs. J'ai eu énormément de plaisir à partager ces moments avec vous. Nous revenons l'année prochaine avec plus de contenu et quelques surprises. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une bonne et heureuse année 2023. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À l'année prochaine.
Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorise une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.